Carnet de campagne. Bonjour, les carnets en Haute-Loire et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région dispose d'un réseau de jardins partagés bien pratique parce qu'il recense tous les jardins de ce type dans son territoire sous le nom de Passe Jardin. L'association a été créée en 98 suite à un premier forum national de jardinage et citoyenneté qui se tenait à Lille. Le jardin partagé, c'est un espace vert cultivé et animé par les habitants, mais c'est aussi un lieu de production envisagé comme un bien commun, comme un espace de lien social. Et depuis sa création, Passe Jardin tissait des liens avec de nombreuses associations, nombreux réseaux partenaires dans les domaines du jardinage éco-responsable, de l'agriculture urbaine, de l'alimentation saine et de qualité. Il y a un site, le Passe Jardin, jardinpluriel.fr. Le siège est à Lyon et il possède un centre documentaire, une outitech, dit-on, et une photothèque. Premier rendez-vous aujourd'hui avec un jardin, justement, indirectement dans la commune de Rosières en Haute-Loire. Celui-ci prolonge une crèche qui emploie une cuisinière en charge des produits locaux. Elle s'appelle Eva Muller. Un village qui revit grâce à un lieu unique, la Grange à Palabre. Christiane Longeon sera notre guide dans la seconde séquence de ses carnets.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Eva Muller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cuisinière.
Tout à fait.
C'est un des plus beaux boulots du monde.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas mon premier métier, mais nourrir c'est déjà très beau. Et alors en plus, nourrir des enfants, c'est une grande responsabilité. Et c'est une tâche qui me tient vraiment à cœur.
Bah oui, on va parler des enfants de la crèche, le pays imaginaire. Quel beau nom à Rosières, en Haute-Loire, 1500 habitants. Avec 22 enfants, j'ai 2 mois à 4 ans, avec une équipe professionnelle de 11 salariés. C'est une belle structure. Mais alors, première question, est-ce que apprendre à vivre et à savoir vivre passe par le bon goût et une alimentation de qualité?
Bien sûr, parce que l'alimentation, finalement, est au centre de beaucoup de questions et beaucoup de problématiques. Et je crois que proposer une cuisine saine, c'est vraiment important. Et puis, à cet âge-là, leur goût est en plein développement. Donc c'est vraiment important que de bien les nourrir. Et puis à travers la table, on peut travailler plein d'autres choses. L'autonomie, les saisons, on peut parler de la nature. C'est vraiment très central, la cuisine.
Et puis c'est bien d'emmener parfois les enfants au jardin parce qu'ils découvrent la vraie vie.
Ils adorent le jardin. C'est qu'on a un petit jardin derrière la crèche avec quelques bacs. C'est Evelyne, ma collègue, qui s'occupe de cette partie. Et dès qu'on ouvre le portail, tout de suite, il y a 4-5 enfants qui se faufilent dans le jardin et qui ont plaisir à gratter la terre, à semer. Et la récompense ultime, à cueillir des herbes aromatiques ou des petits légumes et venir me les amener en cuisine. C'est une belle continuité.
Ouais. Il y a plusieurs soucis. D'abord, c'est évidemment la question financière, mais c'est de se lancer dans cette aventure parce que ça a duré 5 ans. Le projet Cuisine a été lancé en 2010. Il ouvre en 2015 avec vous. Et c'était lourd à porter pour la commune?
Alors, c'est vraiment une initiative de l'association. Alors, on a eu l'aide de la commune qui a pris en charge le prêt pour la construction du bâtiment. Mais vraiment, ça a été à la base, c'est vraiment une initiative de Fabienne, qui était directrice jusqu'en 2017 de la structure et qui a été la cheville ouvrière de ce projet parce qu'elle a fait des nombreuses réunions, de nombreux dossiers d'appels à projets pour convaincre tout le monde pour se lancer dans cette belle aventure. Et vraiment, oui, ça a été un long travail avant de pouvoir cuisiner.
Mmh. Et oui, j'ai oublié de dire, mais vous l'avez signalé, que la crèche, le pays imaginaire, est un espace associatif.
Tout à fait. On est une association de parents, en fait, qui s'occupe de la gestion de la crèche.
Alors, dès qu'on dit qualité, produits locaux, évidemment, formidable pour les enfants, sauf que ça coûte plus cher que ce qui peut arriver sous emballage. Autrement dit, c'est à la charge de qui et est-ce que ça augmente le tarif de la cantine?
Alors, je dément tout de suite, ça ne coûte pas plus cher de faire du local. Et local, ça, c'est un peu réducteur. Vraiment, je suis allée voir tous les gens avec qui je travaille, tous les producteurs, pour vraiment qu'on ait un échange. Donc, le local, c'est une première étape, mais je crois qu'il faut aussi voilà, qu'il y ait le côté humain et échange qui passe par là. Et on essaie aussi de privilégier quand même l'agriculture biologique. Et travailler voilà, en local et en bio, ça ne coûte pas plus cher parce que derrière, il y a toute une réflexion sur le gaspillage alimentaire. Je fais très attention à la quantité que je cuisine. Je l'explique aux enfants, on leur demande de faire attention aussi à ce qu'ils ne gaspillent pas trop. Par exemple, pour les yaourts, au lieu de mettre un pot de yaourt par enfant, je commande les yaourts à une ferme qui me livre ça en seau de 5 kilos. Et moi, après, je peux calibrer la quantité pour l'ajuster à chaque enfant, en fait. Voilà. Ensuite, on propose une à deux fois par semaine un repas végétarien, ce qui permet de faire réduire le coût du repas, tout en prenant des produits toujours de qualité.
Alors, vous allez nous dire, Eva, le prix moyen du repas à la crèche Le Pays Imaginaire.
Alors, c'est un petit peu difficile d'établir un coût repas parce qu'en fait, les enfants peuvent venir à partir de 7h30 jusqu'à 18h30. Le matin, on leur propose un petit jus de fruits frais ou quelques fruits coupés ou une petite infusion. Il y a le repas et le goûter. Mais on a calculé à peu près sur une journée où l'enfant prendrait les trois composantes. On est en dessous de 2 euros, on est entre 1,90 et 2 euros en coût matière première.
Mmh. Et puis alors, il y a autre chose que j'aime beaucoup. Une fois par mois, il y a les résidents de la maison de retraite qui viennent chez vous.
Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est ma collègue Carole qui s'occupe de ce projet intergénérationnel qui nous tient très à cœur. Donc une fois par mois, ils viennent à la crèche cuisiner avec un petit groupe d'enfants et ils partagent le repas ensemble. Et puis à la fin de l'année, on fait aussi une petite sortie où on peut aller au restaurant ou faire une petite activité, en fait, tous ensemble.
C'est merveilleux. Je trouve cette histoire très très chouette. En plus de ça, c'est une cuisine militante, c'est intelligent, c'est au profit des enfants, c'est de la qualité. Ça fait aussi l'éducation et pas uniquement des papilles de nos chers bambins. Il y a une page Facebook Cuisine Le Pays Imaginaire Rosière que vous allez trouver. Vous pourrez entrer en contact si vous le souhaitez aussi pour lui poser des questions avec Eva, notre cuisinière du restaurant. Merci Eva.
Merci Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Je m'étais promis de vous parler de l'Hurluberlu, seule école de cirque de Haute-Loire. Son nom me fait dire d'ailleurs que le mot n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui. L'Hurluberlu, l'excentrique, l'original. Bon, l'excentrique, c'est pas tout à fait le qualificatif le plus adéquat pour un cirque, une école de cirque dont le symbole demeure la piste centrale, mais cette école est toutefois plutôt originale par les publics qu'elle touche. Ils sont très petits, peuvent être handicapés ou affectés par un trouble autistique. Et puis, bien sûr, il y a l'autre public, des adultes, des ordinaires, dirons-nous. Les valeurs défendues dans cette école par un de ces professionnels de l'enseignement des arts du cirque, Thomas Finet, sont le cirque humain, c'est-à-dire qui s'enseigne dans le respect de la personne, un cirque de valeurs qui implique entraide et projet collectif, un cirque de création qui produit de l'imprévu et de qualité par le niveau d'exigence du travail. Chaque année, l'école monte un festival sous chapiteau qui s'appelle le Chaperlipopette, qui mêle spectacle, cabaret et concert. Et c'est à Sainte-Sigolène. C'est royal, non? Cirque, trait d'union, hurluberlu.fr. Ouais, c'est royal, c'était facile. Christiane Longeon, bonjour.
Bonjour.
C'est grâce à Stéphane, merci pour son courrier, que nous pouvons vous appeler. Vous êtes vice-présidente de l'association qui est propriétaire de la Grange à Palabre, à Taillac. Taillac, il faut bien chercher sur la carte. Stéphane nous dit qu'il y a moins de 100 habitants.
Oui, on est au dernier recensement, on était 74.
Comment on vit à Taillac et on vit de quoi?
Alors, on vit bien, déjà, dans un premier temps.
Oh, une bonne nouvelle.
C'est important de le signaler. Non, on est dans un coin qui est très préservé sur le plan environnemental. Donc c'est très agréable de s'y réveiller tous les matins. Ensuite, la principale activité, c'est l'agriculture, bien qu'elle soit en perte de vitesse. Donc c'est une agriculture de moyenne montagne, élevage, brebis, vaches, voilà.
Et la Grange à Palabre remplace un peu le bistrot qui disparaît, hélas, trop souvent dans les petits villages. C'était un lieu de rendez-vous, un lieu d'échange, de débat, de réflexion.
Oui, on pourrait dire ça, sauf que malheureusement, la Grange à Palabre n'est pas un lieu qui est ouvert très fréquemment, puisqu'on fonctionne essentiellement une fois par mois, le premier vendredi du mois, donc pour notre soirée documentaire. Voilà, donc c'est un rêve aussi de pouvoir réouvrir un lieu public de type café pour créer des moments de convivialité, de rencontres, d'échanges, et ne pas rester chacun chez soi. Ce qui peut être facile et, je pense, dommageable à l'organisation sociale.
Alors, la première proposition de la Grange à Palabre, c'est la projection de films documentaires. Elle s'appelle Palabre parce qu'elle a des racines en Afrique.
Alors, la Grange à Palabre, oui, c'est une association qu'on a créée en 2007. Et il y avait en fait deux supports. Le fait de posséder une grange qui avait perdu son usage paysan et qu'on avait envie, on voulait lui faire reprendre vie à cette grange. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait des complicités avec un petit peu le Mali et la Côte d'Ivoire. Et on a établi des ponts. Et par exemple, le premier festival qu'on a créé en 2010 portait sur les points communs entre nos deux continents. quand sur par exemple, vous avez évoqué la question de l'eau, la question de l'accès au foncier, la question de la ruralité avec le problème des services publics. Et on avait vu qu'il y avait énormément de points communs et qu'on pouvait créer plutôt des ponts avec l'Afrique plutôt que des murs. Et la palabre, c'est parce qu'on essaie, malgré des moyens assez modestes, on essaie d'inviter assez systématiquement le réalisateur ou la réalisatrice du documentaire. Et ça donne toujours lieu. Alors, palabre, ça nous paraissait plus convivial et sympathique que débat, dans un espace qui reste petit, mais qui permet quand même des échanges assez fructueux.
Et vous dites que la Grange à Palabre, le festival, les rendez-vous mensuels sont des fenêtres pour éviter le repli sur soi. Est-ce que chez vous, à Taillac ou aux alentours, vous le ressentez, ce repli?
Mais disons qu'on est quand même dans des lieux où, pour avoir accès à d'autres formes de culture que ce qui peut être apporté par la télévision, il faut prendre la voiture. Et le repli sur soi, ça peut être simplement des contraintes tout à fait extérieures aux personnes et une difficulté à se rendre dans des lieux où il y a des propositions culturelles, artistiques. Donc l'idée de la Grange à Palabre, c'était de montrer des images, de partager des images. Alors plutôt, on a pris l'option documentaire parce que c'est un genre qui est assez peu représenté dans les campagnes. Et l'idée, c'était d'apporter des idées nouvelles, des possibilités d'être étonné, sortir un petit peu des sujets qui sont largement médiatisés. Voilà, c'était un peu les envies qu'on avait quand on a créé cette Grange à Palabre.
Alors l'année prochaine, c'est la 10e édition du festival Images et Palabres.
Voilà, c'est ça.
Et on sent qu'on vit mieux depuis ce festival et depuis l'ouverture de cette grange.
Bah ça, je suis un peu mal placée pour en parler. En tout cas, moi, je trouve que ça apporte de la joie, une forme de joie. Ça apporte aussi de la critique, de la prise de distance par rapport aux événements qui nous entourent. Alors, on peut dire aussi une forme d'éducation populaire. Puis la convivialité, c'est important parce qu'avant chaque soirée mensuelle, on propose une auberge espagnole qui permet aux spectateurs qui viennent de déjà tisser un lien avec le réalisateur ou la réalisatrice ou l'intervenant qui est prévu ce soir-là. Donc on essaye de privilégier ces moments-là aussi.
La Grange à Palabre a un site internet, l'adresse va s'afficher à nos pages d'émission. Et préparez-vous non seulement au rendez-vous mensuel, mais aussi à la 10e édition du festival qui aura lieu les premiers jours de juillet à Taillac. Merci Christiane.
De rien, merci à vous.